Ça commence par la voix de Raymond DeVos.
J'ai commencé, moi, à improviser des choses quand j'étais dans la compagnie Fabry, d'ailleurs, pendant une tournée. J'étais dans un car où il y avait quelque chose comme 15 ou 16 ou 20 comédiens, je ne me rappelle plus très bien. Donc j'avais un public.
Et alors, pendant ces longs trajets, ces longues heures, je me levais et puis je racontais ce qui m'était plus ou moins arrivé la veille. Je dis, alors voilà, j'en inventais en plus, hein, vous voyez.
Et j'ai commencé donc à inventer des phrases comme ça, des dialogues. Et je me suis aperçu de leur efficacité. Et très vite, c'est-à-dire un jour, je dis tout de même, c'est idiot de laisser les paroles s'envoler comme ça. Pourquoi je n'écrirais pas le texte que j'ai improvisé hier ou avant-hier? Et je me suis mis à l'écrire.
Mais le premier test, ça a été l'efficacité. Pour vous, c'est en faisant rire...
Ah, mais sûrement, vous savez, encore une fois, on ne peut pas séparer le rire, du moins, un texte comique de ses rires. Parce qu'un texte comique est fait pour rire. Là encore, c'est un problème très important qu'on soulève, parce que moi, on me demanderait facilement de venir dire un texte à la radio. Or, ça, c'est un non-sens. Parce qu'un texte est écrit avec l'emplacement des rires. Supprimer les rires, il reste un texte qui s'écroule, comme un château de cartes, il ne veut plus rien dire. Et puis les gens, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est pas assez intelligent pour qu'on le prenne au sérieux. Enfin, vous comprenez, je veux dire, c'est assez sérieux pour que les gens puissent faire attention, prêter l'oreille. Et ce n'est pas assez comique, c'est-à-dire que l'angle n'est pas assez violent pour que les gens s'aperçoivent que c'est ridicule et qu'il faut en rire. Il faut la présence des gens. Si je n'avais pas eu dans ce cas, si j'avais été tout seul dans ma voiture, il est fort probable que je n'aurais rien inventé.
Est-ce que vous vous souvenez chacun de votre premier public? Raymond DeVos parle du car, où il a commencé à parler, à faire rire. Joss Houben, vous vous souvenez?
Oui, mais c'était pas un public de théâtre.
C'était où?
C'était la classe, la cour de récréation, mes sœurs.
Et vous avez quel âge?
Oula, ça commence, je sais pas à quel âge. Toujours, 6 ans, 7 ans, j'étais toujours un peu... Mais c'était pas un comique de parole, plutôt de comportement.
Donc déjà un public à 6-7 ans.
Oui, c'est-à-dire que dès que les gens riaient, ça m'inspirait, ça me poussait à aller un peu plus loin. Mais j'ai jamais pensé à en faire une profession, jamais. Je n'ai pas fait une école de théâtre pour être comique. C'est venu par hasard plus tard, ça m'a revenu, ça m'a tapé sur l'épaule comme ça.
Et c'est quoi à 6-7 ans qui faisait rire les autres?
Mais... Ben, un enfant, il rit même avant de conceptualiser les choses. Un bébé, il rit avec un comportement, avec un objet, avec un point. On peut faire parler une patate et se faire rire. Donc c'est un peu ça, quoi, un jeu enfantin, marionnettisant des objets, mettant le chapeau de mon père qui était gendarme. Donc il était trop grand, je me baladais sans son uniforme. Et c'est plutôt ça, c'est un peu faire le clown. Et je me rappelle très bien que ça se prolongeait. Dès que j'avais cette attention-là, ça m'inspirait. C'était sur un trip un peu. Je partais. Voilà.
Et vous, Michel Faure, je disais, pour faire rire ou juste pour dire, vous vous souvenez de vos premiers publics?
Moi, j'étais plutôt spectateur. Enfant, un peu comme vous, j'ai toujours eu un peu de mal avec le rire à la commande. J'aime bien le... Lorsqu'on rit à son insu, moi je me souviens de mon père, il nous faisait beaucoup rire malgré lui, parce qu'il maîtrisait très mal le français, mais il faisait quand même l'effort de le parler. Donc les erreurs qu'il pouvait commettre, les fautes de syntaxe, ou au lieu de dire « termine ton assiette », il disait « mange ton assiette », c'était des choses, ça faisait rire tous les enfants. Et j'étais d'abord spectateur, et c'est ce rire-là d'abord qui m'a le plus séduit au départ.
Michel Faux.
Ben moi, je faisais des spectacles de marionnettes et j'obligeais mes copains de l'école à regarder mes spectacles.
Et public contraint.
Voilà. Et un jour, j'ai fait un spectacle, c'était des marionnettes à Gaines, donc j'étais derrière le décor. Et en fait, ils sont tous partis, je m'en suis pas rendu compte. Ils sont allés jouer au foot dehors et j'ai fait le spectacle devant une salle vide, en fait. Voilà, ça, c'était mes débuts, vers 8 ans, quoi.
Depuis, ça va mieux.
Ça va mieux, oui. Ça dépend des spectacles.
Thank you. Il est 20h sur France Culture et il n'y a pas de loi qui tienne sur scène, pas de manuel, pas de mode d'emploi. Il y a un art et là on peut repérer des savoir-faire. Josouben a appelé son seul en scène l'art du rire, pour tenter de décoder le rôle du corps dans la mécanique du rire, lui qui se verrait bien ingénieur du rire et pour qui le personnage principal serait finalement le public. Il commence par dire « le thème c'est le rire et pour l'instant il n'y en a pas ». Le défi est vaste, ça commence par être là et faire juste avec ça. Quand Michel Faux, tout jeune, lui, arrive au conservatoire à Paris, l'heure est au jeu réaliste, comme si là, on avait posé une loi. Les vaudevilles sont presque interdits, lui veut pouvoir tout s'autoriser, y compris rire, se travestir ou déclamer. Il s'est depuis créé sur scène un espace où c'était possible. Il aime les créatures et il est allé chercher cette fois-ci le comédien Roche Dizem pour l'accompagner dans Trahison d'Harold Pinter qu'il met en scène. C'est un vaudeville à l'envers, la loi est inversée, la chronologie aussi. La pièce commence par la fin et se termine au début. Elle commence par la révélation du secret pour repartir petit à petit au début de la trahison, une dizaine d'années plus tôt. Dans la pièce de Pinter, Robert dit à son ami Jerry qui ne savait pas qu'il était à découvert « Au fond, tu ne savais pas grand-chose dans pas mal de domaines. » C'est l'art de jouer avec les failles des humains, d'en rire et à rebours de les aider à se relever. L'art de faire rire que Josouben résume aussi par « Toutes nos façons d'essayer de rester dignes ». Nous sommes donc avec Michel Faux et Roche Dizem. Trahison d'Harold Pinter a commencé depuis le 24 janvier, c'est au Théâtre de la Madeleine à Paris. Michel Faux met en scène et ils partagent le plateau tous les deux avec Claude Perron et Fabrice Kals. Nous sommes avec Josouben pour son seul en scène L'Art du Rire qu'il reprend à la Scala à Paris du 5 au 22 février après l'avoir fait voyager partout dans le monde. À la musique, Pomme est en studio avec nous. Son album est sublime, il s'appelle Les Failles. Et la nouvelle édition, Les Failles Cachées, sera disponible le 14 février avec 5 nouveaux morceaux. Elle est en tournée partout en France, en Belgique, et elle sera de retour à Paris à la Cigale le 9 avril et à l'Olympia le 23 novembre. C'est Tous en scène sur France Culture, et ça commence par la voix de Jacques Lecoq et la question du corps.
On a souvent séparé le corps d'autre chose, on a coupé en deux l'être humain, et surtout... En France, la notion du corps est très séparable de la notion de l'esprit. On en fait deux choses complètement antinomiques et presque contradictoires et presque en opposition, n'est-ce pas ? Mais en tous les cas, à l'école, on commence par le corps, parce que évidemment, le corps sait des choses que la tête ne sait pas encore. Et le premier engagement dans l'action du jeu théâtral est d'abord une action physique.
Vous demandez à vos élèves de regarder dehors et d'oublier les mois.
C'est ça, oui. Alors, je suis un petit peu allergique à la recherche de son moi. Faut-il se connaître soi-même avant de connaître les autres ? Pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'avoir le regard de la curiosité ouvert vers le monde et ouvert dans le monde de la vie quotidienne, mais aussi dans son abstraction. Quand on est en face de la mer, ben on est en face d'une horizontale. À la montagne, on est tenté par les verticales. Il y a déjà une structure que nous offre la nature autour de nous, qui est quand même notre premier langage. On se réverbère dedans.
Michel Faux, est-ce que ça vous parle, ces mots de Jacques Lecoq, sur l'engagement physique et le corps et l'esprit mêlés sur scène ?
Oui, parce que moi, j'ai jamais séparé la voix du geste. J'ai jamais compris pourquoi on séparait, en fait. Mais souvent, c'est vrai que c'est typiquement français. Les gens jouent même, je dirais, même plus avec leurs yeux, ils jouent juste avec leur bouche. Et en effet, le geste est très suspect. On dit toujours, ne fais pas trop de gestes, etc. Alors que je pense que... Un geste raconte énormément, mais j'ai jamais séparé le geste et la parole.
Josouben, ça a été quoi l'importance pour vous de ce professeur Jacques Lecoq, puisque ça a été votre professeur?
Oui, c'était
pour votre
le
présence
seul.
Sur scène.
Ouais, mais c'était un choc. Je voulais partir de la Belgique, quitter la Flandre, la campagne où j'ai grandi. Je voulais la grande ville. Et j'étais à l'université, j'étais assez intelligent pour aller à l'université, mais je m'ennuyais énormément. Et c'est un coup de folie. Je faisais des stages de théâtre le soir avec quelqu'un issu de Jacques Lecoq. Et ça me... J'avais jamais fait, même pas vu le théâtre. Mais deux fois dans ma vie, quand j'avais 18 ans, fin fond de la campagne limbourgeoise, la région minière. Et je dis, tiens, ça me fascinait, ça m'inspirait de se mettre à bouger, à imiter, à inventer des trucs à partir du corps, le silence. Et je suis parti, c'est un coup de folie, j'ai fait le stop, je suis parti à Paris pour voir où était cette école. J'ignorais à ce moment-là que c'était une vraie école de création, on demande aux élèves d'inventer leur théâtre. Donc, comme il dit, Jacques, à partir de l'observation, on capte les rythmes et les phénomènes autour de soi, ne serait-ce que, tu vois, les passagers qui sortent d'un train ou qui luttent avec leur valise ou un enfant qui cherche sa maman, tout ça est rythme et mouvement. Et le premier geste de reconnaître le monde, c'est d'imiter, faire comme, tu vois, même si un enfant imite dans un sens mal, il a vu juste. Il parodie pas. Il identifie la chose par son état, son mouvement. Et après, évidemment, il y a plus tard des formes, des styles très codifiés qui comme le jeu masqué ou le mime. Ce n'est pas ça qu'on cherche à l'école Lecoq. C'est mais on reconnaît que ces registres existent. Et en passant par là, on invente ces ombres, des choses hybrides qui sont à nous. Voilà, je suis parti à cette école. Ça m'a complètement déstabilisé. Et je suis devenu quelque chose ou quelqu'un que je ne cherchais pas à devenir du tout. Et je rencontrais des gens de toute l'Europe, comme Sam McBurney en Angleterre. Il m'a emmené en Angleterre. On a commencé une petite compagnie théâtre de complicité. Ça a fait bouffe comme ça. On a voyagé le monde entier avec des premiers spectacles assez comiques et absurdes. Et donc confronté à des publics non anglophones en Amérique latine ou en Allemagne, en Italie. On trouvait des moyens que, comme dira Jacques Lecoq aussi, là, la parole couronne quand même l'être humain. Donc ce n'était pas muet. Mais la parole est faite, comme dans la comédie de l'art, elle faisait partie d'une activité comique sur scène autour d'un thème qu'on avait, et puis tout le monde est allé son propre chemin. Mais évidemment, on commence par le corps et le mouvement. Je n'ai jamais vu un acteur entrer sur scène sans son corps. Un acteur, il sent l'espace. Il ressent le public. C'est complètement différent. Un plateau surélevé ou quand le public a un balcon, un acteur, il est toujours en connexion avec son corps, avec l'espace, c'est évident.
Et on va en parler, Roche Dizem, ça faisait à peu près presque plus de 18 ans que vous n'étiez pas monté sur scène. Comment on redécouvre justement cet espace-là, l'engagement physique que ça implique, c'est quoi la différence avec...
C'est une renaissance. Enfin, j'ai le sentiment de repartir à zéro, d'être vraiment... un acteur totalement débutant. Donc, je fonctionne de toute façon quasi généralement par le doute. Là, il est accentué. Il est davantage plus important dans le travail, mais je travaille aussi beaucoup avec la confiance que j'accorde au metteur en scène. C'est pour moi la condition sine qua non pour pouvoir évoluer et essayer d'améliorer ce travail. Mais... il y a la différence essentielle pour moi, puisque vous parliez du corps, au cinéma, j'ai conscience, par exemple, de l'objectif qu'il y a sur la caméra. Est-ce qu'on est aux 50, aux 80 ou aux 35? Donc, en fonction de ça, on sait quel mouvement du corps on doit économiser. Au théâtre, on est aux 50. 50, ça correspond à peu près à la vision de l'homme. Donc, 50, c'est un plan large. Donc, le corps... Et la voix doivent s'uniformiser pour effectivement interpréter le personnage pour lequel on s'est engagé. Et ça, c'est la vraie difficulté, parce qu'il n'y a plus de calcul. Et donc, j'essaye de chercher à l'intérieur de ça ma vérité. J'ai pas de méthode. Enfin, j'ai créé une école qui est mon école, où je suis le seul et unique élève. À travers ça, j'essaie de trouver... l'authenticité. Je suis un bon soldat. J'aime bien les directions que peut me donner le metteur en scène, en l'occurrence Michel Faux.
Les comédiens, quand ils travaillent avec Michel Faux, parlent souvent de la précision, justement, des gestes, des déplacements du corps dans l'espace.
Il procède par touche. C'est-à-dire que, arrête-moi si je me trompe, Michel, mais j'ai l'impression qu'il nous laisse évoluer, il nous regarde, il nous observe, et après, par petites touches, il fait des petits changements qui vont s'avérer, en fait, être très importants pour la suite, mais c'est toujours très délicat, très... C'est pas un changement unilatéral de votre proposition. Mais cette petite précision qu'il va apporter va de toute façon complètement reconfigurer votre façon d'aborder une scène ou même le personnage parfois.
On va écouter la voix de Pinter.
Sans aucun doute, je travaille beaucoup sur le texte après un certain stade. Après un certain stade de travail avec la conscience. Autrement dit, je ne travaille pas simplement avec mon inconscience tout le temps, non. Je garde un œil sur ce qui est inconscient. Mais au bout du compte, et c'est une des choses passionnantes de l'écriture, comme vous le savez, c'est que on découvre la vie des personnages. Personnages que l'on n'a jamais rencontrés, que l'on ne connaît pas du tout. Et dans une certaine mesure, il faut laisser ces personnages vivre leur propre vie. Mais par ailleurs, il y a un conflit intéressant entre l'auteur et les personnages. Qui c'est le patron? La réponse n'est pas évidente. À mon avis, au bout du compte, le patron, c'est l'auteur. Que ça plaise au personnage ou non, moi je n'ai qu'à prendre mon stylo et faire ceci, vous voyez, un coup de stylo et ça y est, je lui ai enlevé une réplique. Peut-être que c'était même une de ses répliques préférées. Mais c'est moi qui ai le stylo, vous voyez.
Michel Faux, cette pièce Trahison, elle a été écrite en 1978 et je crois que la première création c'était en 82 au Théâtre Montparnasse en France, entre autres avec André Dussolier, Samy Frey.
Et Caroline Cellier.
Vous vous emparez de cette pièce, là c'est assez drôle, on entend Pinter qui se demande est-ce que c'est l'auteur ou les personnages qui tirent le fil et qui ont le pouvoir. Dans Trahison, vous répondriez quoi?
En même temps, dans d'autres interviews, il dit Pinter qu'il ne... Qu'il ne sait pas qui sont ces personnages. Il disait ça aux acteurs, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas faire le malin avec Pinter, parce qu'il est très pervers, et il ricane dans sa tombe quand on essaie de tout expliquer ou de tout justifier. Il faut cultiver le mystère, en fait. Il faut avoir des secrets, donc. Et si on est trop explicatif ou trop concret, ça ne marche pas. Si on est trop ésotérique, ça ne marche pas. Si on joue trop autre chose que le texte, ça marche pas. C'est très très compliqué. Et en fait, c'est un peu comme dans les films de David Lynch ou dans une pièce de Jean Genet. Il faut pas vouloir tout expliquer ou tout éclaircir comme on fait depuis le XVIIIe siècle. Mais il faut au contraire cultiver le mystère et l'ambiguïté et la surprise.
Mais ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que le mystère, justement, sont les personnages et pas forcément l'intrigue, parce que finalement, comme on l'a dit, la chronologie est inversée, donc ça commence en 77 et donc il y a ce trio, le mari, le meilleur ami et puis la femme. On sait que le mari était au courant de la liaison de son meilleur ami et de sa femme. On sait que tout ça est découvert et que ça a existé, donc finalement le secret il est révélé dès le début. Mais on ne sait pas encore qui sont ces gens.
En fait, on ne sait pas qui ment et qui dit la vérité, en fait. Même c'est un peu comme dans la vie, je dirais. Mais souvent, on me dit, oh, c'est encore une histoire du mari, de la femme et l'amant. Et j'ai envie de dire, mais Othello, c'est une histoire du mari, la femme et l'amant. Ivanov de Tchekhov, c'est le mari, la femme et l'amant. Donc, c'est plutôt des conflits humains, en fait. Mais ce qui est passionnant dans la pièce, c'est qu'il choisit des gens très privilégiés, très brillants. Il y a un éditeur, il y a un agent littéraire, elle a une galerie de peinture. C'est des gens vraiment très, très, assez prétentieux même. Et c'est vraiment la bourgeoisie intellectuelle londonienne. Et il va tordre le cou à toutes leurs certitudes et à tous les repères que la société s'est imposé pour arriver à survivre, quoi. Ça va assez loin, en fait, la pièce, beaucoup plus qu'un simple divertissement bourgeois. C'est très compliqué et il tord le cou au code de la société et il tord le cou au code du théâtre aussi. C'est pour ça que je pense que ça sera un auteur qui a influencé énormément, qui est une étape dans le... Après Beckett, après Ionesco, il y a vraiment Pinter. Et cet auteur qui, par moments, à une période, a été méprisé, maintenant commence d'ailleurs à être... m'ont énormément joué alors qu'il est mort il y a 10 ans.
Et vous parlez des mensonges. C'est vrai que là, le fil, c'est qui sait, qui ne sait pas, qui sait en dernier. Qui... Et c'est ça qui est très drôle avec le personnage que vous jouez, donc de l'ami Jerry Roche-Dizem. C'est que lui, c'est un peu celui qui sait en dernier.
Oui, c'est l'amant et le cocu à la fois. C'est en ça que, effectivement, il y a beaucoup d'adversité chez Pinter, mais c'est en ça aussi que c'est assez original. Mais je voulais revenir sur cette espèce de, sur cette forme de chronologie inversée. Le schéma narratif classique, c'est effectivement de découvrir le futur. Et là, de revenir dans le passé, quelque part, ça reste tout aussi mystérieux et presque, je dirais, il y a presque plus de suspense parce que, effectivement, on vous livre la fin et c'est tout aussi intéressant finalement d'aller chercher l'histoire. D'où ça est-il parti et comment en sont-ils arrivés là? Et ça marche très bien dans les deux sens et je dirais presque même la chronologie inversée marche mieux que la chronologie classique auquel on est habitué. Et en tout cas, moi, c'est un des points qui m'a donné envie de participer à ce projet, mais également, comme vous l'avez souligné, cette forme de naïveté que peut avoir Jerry, mais en même temps, il est tout aussi ambivalent que les autres personnages. Il a ce côté un peu ingénu, mais en même temps, il est à la genèse de cette trahison dont il est question. Ils sont assez égoïstes. Il y a beaucoup. C'est des personnages qui sont très autocentré. Ce qui le dérange, c'est non pas d'avoir trompé son meilleur ami, c'est que finalement de découvrir que son mari, vous voyez l'absus, son ami a toujours été au courant de cette situation. Et ça le met hors de lui. Mais le fait de l'avoir trahi pendant des années lui pose aucun problème.
On va écouter la voix de Eric Kahn qui a traduit beaucoup des pièces de Pinter et qui parle de l'écriture et de l'humour.
Je crois qu'il s'agit en fait d'un problème très important qui est celui de l'écriture de Pinter et du dialogue de Pinter et des conversations des personnages de Pinter. C'est-à-dire que quand on pose une question à quelqu'un, on obtient une réponse. Et cette réponse peut être soit la réponse franche, directe, quelle heure est-il ? Il est 3 heures. Bon, là, il n'y a pas de problème. On peut obtenir une réponse qui est une... sorte d'échappatoire, d'évasion. Quand on vous demande l'heure, vous répondez « je commence à avoir faim », mais là, on comprend que ça veut dire qu'on arrive à l'heure des repas. On peut également parler de quelque chose de totalement différent qui implique une sorte de fin de non-recevoir, ou on peut répondre également, et c'est très important, par un silence. Et un silence, c'est une réponse. Enfin, ne pas répondre, c'est encore répondre. C'est une façon de réagir à quelque chose qu'on vous demande et à quoi on ne veut pas répondre. Ou on peut répondre soit par un silence, soit par un sourire, soit en détournant la tête.
Michel Faux, comment vous décririez-vous ces dialogues de Pinter? C'est vrai qu'on parle souvent des non-dits et de la façon de... comme il le décrit, de répondre soit par un silence, soit par une autre question, soit par autre chose. Et c'est ça qui déclenche évidemment l'humour aussi.
Et c'est pas apparemment anodin, apparemment quotidien. Et en fait, ça l'est pas du tout. C'est une machine infernale que Pinter construit et déconstruit. C'est assez machiavélique, c'est assez pervers. D'ailleurs, avec Claude Perron et Roche-Dizem, on finit dans la vie par s'observer en train de parler comme dans du Pinter.
Ça ressemble à quoi dans la vie?
Non, mais je sais pas. On dit, pourquoi t'as posé cette bouteille ici, quoi? Enfin, d'un seul coup, cette question devient métaphysique. Et c'est ça. Mais c'est ça qui est terrible dans Pinter, c'est que il parle de choses affreuses de façon très anodine, et puis d'un seul coup, le fait qu'un personnage dans un restaurant hésite à choisir un plat, ça devient une question. Essentiel et métaphysique. Donc c'est ce décalage. En fait, il se moque de nos repères. Et donc l'écriture, elle est musicale. Il indique même les silences comme une partition musicale. En fait, elle est assez C'est, en effet, ça rejoint ce que vous disiez sur le jazz, elle est assez rythmique en fait. Et parfois, il dit, Pinter, qu'il faut se laisser aller à la musique des mots et pas chercher à tout prix à justifier. Et c'est vrai, c'était Thomas Bernhard qui disait tout est musique, mais je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'il y a des... On essaie de gérer le temps et gérer le rythme, ce qui est essentiel pour pas qu'un spectacle s'étiole.
Vous aussi, vous le concevez comme une partition, Roche Dizem ?
Oui, mais vous savez, il y a des indications qui, au premier abord, m'étaient passées complètement inaperçues, mais il y a, quand vous lisez le texte, il y a marqué parfois pause et parfois il y a marqué silence. Et Michel Faux m'a expliqué la différence entre la pause et le silence, et quand vous les interprétez, ces pauses et silences, il y a des phrases qui prennent tout leur sens. Et ce qui est assez jouissif aussi pour nous, acteurs, c'est cette façon qu'a Pinter de donner une importance au banal. Et la première scène, par exemple, où il y a un échange de banalité qui en fait devient le centre même, l'épicentre même de cette scène, c'est ces banalités qu'on échange, nous, dans la vie. Si on s'enregistrait, ça serait, je vous assure, parfois, faites l'expérience, c'est fou les banalités qu'on peut dire au milieu d'un dîner ou
d'une soirée. Et puis une question qui revient souvent, mais sinon tu vas bien ?
Oui, ça, c'est ça. Ça, ça et on vous répond, on répond jamais, oui, je vais bien. Et toi, ça va. C'est ça qu'on répond à, tu vas bien. Donc, il met ça en abîme. Et effectivement, comme le disait Michel, ça nous fait réaliser à quel point, effectivement, dans la vie, on peut être aussi comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit à Michel, tu as toujours mal au dos. Il me dit, mais j'ai jamais eu mal au dos. Pourquoi tu me dis ça? Il dit, ah bon, mais il me semblait que tu avais eu mal au dos. Mais non, pas du tout. Vous voyez? Et ces choses-là, effectivement, on se rend compte qu'on fait du Pinter au quotidien. Et de le réaliser, c'est assez grisant, ma foi.
Et on va pas tout dévoiler de à quoi ressemble la scène au Théâtre de la Madeleine, mais le décor est très inventif et c'était un défi aussi, parce que quand on lit la pièce de Pinter, on passe de l'Angleterre à l'Italie, une chambre à Venise, une salle de restaurant à Londres.
Mais je crois qu'il a fait exprès, parce qu'il est très pervers. C'est un casse-tête, ce décor, en fait. Donc, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu des versions très réalistes où ça changeait de décor tout le temps. Il y a eu des versions très abstraites où il n'y avait rien, il y avait deux chaises. Et donc, moi, je voulais trouver autre chose. Et en fait, j'ai trouvé un espace qui est un espace mental, en fait, qui est un espace claustro, qui est un espace étouffant. On dévoilera pas, mais je voulais qu'il soit dans un espace... Vous savez, ce qu'en tragédie classique, on dit, on appelle ça l'espace nul. C'est-à-dire, la tragédie classique, c'est pas toujours dans un vestibule entre deux portes, Bérénice ou Britannicus. C'est toujours entre deux portes pour que les personnages ne soient pas à l'aise, en fait, et soient de passage, en fait, ne s'installent pas, en fait. Et donc, c'est un peu ça qu'on a essayé de retrouver, c'est qu'ils... Même s'ils sont assis, ils sont assis sur du feu, sur des braises, en fait. Donc c'est toujours l'idée qu'ils sont frustrés, qu'ils sont mal, c'est assez terrifiant. Mais ça doit faire rire, ça c'était vraiment ce que voulait Pinter.
Et vous mettre en scène, vous avez l'habitude maintenant, Michel Faux, mais est-ce qu'à chaque nouvelle pièce, il y a des choses nouvelles qui apparaissent? Est-ce que c'est...
Moi je trouve ça formidable, et maintenant je m'en fiche que les gens... Il y a beaucoup de gens qui critiquaient le fait de se mettre en scène, mais je sais que Rushdie, il se met en scène au cinéma aussi. Moi je trouve ça très sain, en fait. Et je suis très exigeant avec moi-même, et justement je vais dans des répertoires qu'on ne me proposait pas avant, et des choses très différentes. Je peux m'entourer de comédiens qui me font rêver, et surtout je suis là tous les soirs sur le bateau avec les autres, mais comme étaient avant les chefs de troupe, hein, c'est très récent cette idée que le metteur en scène doit être extérieur au spectacle. Et tous les soirs, tous les jours, on se dit des choses entre nous, donc je reste quand même le capitaine du bateau pour pas que le bateau coule.
Et au tout début de l'émission, je disais que vous aimiez les créatures sur scène et vous avez travaillé avec beaucoup de comédiens très différents. Pourquoi vous avez pensé à Roche Dizem pour
Trahison ? Parce que c'est une créature. C'est des bons comédiens.
Quel genre de créature ?
Des bons comédiens, il y en a plein. Moi, ça ne m'intéresse pas les bons comédiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont des secrets. C'est les gens qui me déroutent, qui me surprennent, qui me choquent, qui me séduisent aussi. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Régis Laspalès, avec Michel Bouquet, avec Audrey Tautou, avec Geneviève Page, voilà. J'ai pas des gens très très jeunes, des gens très âgés aussi. J'aime bien mélanger, j'aime bien aller vers des gens qui m'intriguent, en fait. Je travaillerai pas avec n'importe qui parce que j'y arriverai pas, en fait. Il faut vraiment que je sois séduit. Mais ça, c'est comme dans les histoires d'amour, il y a quelque chose d'absurde et d'inexplicable pourquoi on est attiré par, mais je veux plus me mettre d'œillères ou de me censurer sur mes choix ou sur mes goûts. Alors ça surprend, évidemment, mais je crois qu'on a tous des goûts bizarres. Hein.
Les Failles, c'est le deuxième album de Pomme et c'est elle qui a tout écrit. 11 morceaux, bientôt 5 de plus dans la deuxième édition, Les Failles Cachées qui sort le 14 février. Pomme, c'est comme une voix de diamant noir, un équilibre entre soleil et lune, entre grands espaces, grand air et obscurité. On y entend souvent le corps et ses failles. Je crois que le premier morceau s'appelle Soleil, Soleil, mais on sent, Pomme, l'importance de la nuit et de l'obscurité, du refuge et de ce que ça permet pour l'écriture dans l'album.
Ouais, en fait, c'est assez ambivalent pour moi la nuit parce que c'est autant inspirant qu'effrayant, parce que j'associe aussi la nuit à la fête et à la danse et à l'alcool et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu peur de ça. Mais du coup, je passe souvent mes soirées ou mes nuits dans la solitude et dans l'écriture, ce qui est pas mal.
Et on a entendu la voix de Jacques Lecoq qui disait « On se réverbère dans tout ce qui nous entoure, dans la nature, dans l'espace ». Il y a aussi beaucoup cette notion d'espace, de grands espaces, de grand air.
Oui, en fait, je pense que si je pouvais inventer une ville qui soit spacieuse et dans laquelle je puisse me sentir seule sans être oppressée, j'inventerais et je vivrais dedans. Mais c'est un peu comme Montréal, en fait. Mais à Paris, en tout cas, c'est dur de se sentir bien en étant seule et d'avoir de l'espace. Du coup, je suis partie écrire les chansons de l'album en Bourgogne, qui, pour le coup, est une région où j'avais de la place et où je croisais pas beaucoup de monde.
On commence par le soleil, alors.
Ouais, bah oui, quand même, il faut un peu de lumière, quoi, dans ce monde.
Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, au revient. Soleil, soleil. Ne regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera. Vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. On ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
Moi, le phénomène comique m'a toujours passionné parce que c'est déjà un phénomène essentiellement humain. Tout le monde le sait. Il est propre à l'homme. L'homme s'est forgé la possibilité de rire. Il y a une raison majeure. Ah, sans ça, il ne se serait pas donné cette possibilité d'un coup de faire.
Pourquoi ? Parce que le rire, c'est l'oubli.
Le rire, c'est l'oubli de la réalité. Rire de quelque chose, c'est accepter une incongruité, quand même. Hein, une chose qui est en dehors de la vie. Dès que vous l'acceptez, cette chose, le réel devient irréel. et vous oubliez la réalité. Bon, c'est d'où le divertissement, d'où le soulagement. C'est capital chez l'homme. Un homme qui ne rit pas est un homme malade. Il ne le sait pas, mais il est malade. Parce qu'il n'a pas d'exutoire. Alors il a constamment la gravité de la vie autour de lui. Et puis l'issue de la vie, qui est la mort. Et il ne peut pas s'en défaire. Ah, c'est un neurasthénique. Alors les gens qui me disent, moi, vous savez, croyant quelquefois se vanter, me disent, je ris pas, moi, ou je ris difficilement. Vous savez, pour me faire rire, moi. Mais moi, je ne l'envie pas, ce monsieur. Je ne l'envie pas.
C'était à nouveau la voix de Raymond Devos avec laquelle on avait commencé l'émission. Joss Houben, est-ce que un homme qui ne rit pas, il est malade?
Je ne sais pas. Ça s'appelle agalaste, ceux qui ne rient pas. Les grands fameux agalastes étaient Staline, Margaret Thatcher, un petit sourire, Max. Mais Hitler riait, Mussolini aussi, donc je ne sais pas si c'est un homme malade. Je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que le rire, le phénomène, rire, évidemment, nous sourions, nous avons déjà ri autour de cette table, il est là tout le temps. Et pour ceux qui veulent le maîtriser, en faire leur fonds de commerce, ben, ils ont intérêt à, comme dit le mot est tombé, il faut être efficace. Parce que ce public est venu pour ça. Et le problème est un peu ça aussi, toute la différence avec tout ce qu'on peut faire qui ne fait pas rire, et quand on est là pour faire rire, ben, il faut qu'il rie. Et ça s'apprend, c'est technique, c'est mécanique. Il faut toujours faire un filage avant, il faut se remettre dans le rythme. Il faut accepter aussi, dès le départ, qu'il va y avoir des soirs où ils ne rient pas. Et parce qu'ils n'ont pas ri pendant 5 minutes, ils décident qu'ils ne vont pas rire pour le reste de la soirée. Un public, il doit se donner la permission de rire. Donc au début, c'est ce que je fais. Je leur donne la permission de rire un peu ou de sourire et j'accepte ça. S'ils entendent le rire, bon, ils vont plus facilement rire.
Dans l'art du rire, Joss Houben, vous êtes seul en scène et vous commencez par interpeller le public.
Oui, je commence par le regarder. Ça rejoint ce que j'avais raconté avant. Si je ne vois pas les gens pour lesquels je vais jouer, je ne suis pas inspiré, surtout pas pour ce spectacle-là, parce que je suis face aux gens pendant une heure, je les vois, je vois le monsieur qui s'endort, je vois l'enfant qui embête sa maman, je vois le lycéen qui regarde leurs écrans d'iPhone, je vois tout. Et donc, je dois les aimer un peu. Je veux être touché par ces gens. Ça me donne envie. Si je reste dans une vestiaire et je monte sur un plateau et je pour une salle anonyme, j'ai trop le trac. J'ai pas envie. Voilà, trac ou pas. Donc, je me balade un peu dans la salle. Et parce que le spectacle s'appelle L'Art du Rire, ils me découvrent et point, ils rient déjà. Comme quoi, je ne fais rien, j'ai rien fait. C'est lui qui va nous faire rire.
Vous les incitez d'ailleurs au départ à vous observer.
Oui,
penser ce qu'ils ont envie de penser sur vous.
Complètement. Et je leur donne ce temps de me regarder parce que chaque être humain, comme dirait Andy Warhol, est fascinant pendant 5 minutes. Donc, ils me regardent, je vois mes chaussures, mes cheveux, je donne ce temps-là et ça prive. C'est comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il faut un temps de détente, et puis je parle, et tout en parlant, je change un peu mon corps, ou je me mets un peu à la diagonale, et il rit. Et c'est toujours comme ça. Au Sénégal, à Tokyo, à New York, ils sont déstabilisés par le fait que moi, je déstabilise quelque chose. Donc c'est une question d'équilibre, déséquilibre, stabilité, l'attendu, l'inattendu.
Et vous parlez du corps, on a commencé à parler du corps.
Oui.
Là, vous décrivez justement un mouvement qui déclenche quelque chose.
Oui.
C'est vraiment le rôle du corps que vous prenez dans cette mécanique comique. Que
oui,
vous prenez
dans un premier temps, je dirais que ça nous prend quand même une bonne 8 à 12 mois à maîtriser cette verticale. On est très sensible à l'équilibre. Donc on est debout sur deux pieds et on tombe. Et au début, c'est amusant. Le bébé, il a des couches, il tombe sur le derrière, il est proche du sol. Petit à petit, quand on grandit, ça devient important. Tiens-toi debout. Et on s'habille. Et ceux qui ont l'autorité sont debout. Le parent et l'instituteur. Et donc, du coup, ça devient autre chose. Donc la chute et le trébuchement, il provoque la moquerie, où on a peur de la moquerie, où il y a un enjeu de faire bien. Donc dès qu'on fait la faute, il y a une réaction. L'art du rire, c'est un peu un leurre. J'ouvre la porte, ils entrent parce qu'on va rire, et puis je parle quand même de leur corps, de leur bassin, de leur poitrine, de leur tête, de leurs yeux, de leurs mains. C'est comme si je redonne le droit d'être encore comme on veut au public. Je dis quand même, je mentionne quand même le mot dignité presque 20 fois. Et après le spectacle, j'obtiens des commentaires étonnants. Je reviendrai avec mon mari, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, monsieur. Et on vient me toucher, m'embrasser. Ces dernières années, les gens viennent moins me parler que de me toucher. Ils ont été touchés par autre chose, comme si je les ai rassurés de quelque chose. Donc voilà, et ça va très loin dans un sens. Et le mot est tombé aussi, ça reste pour moi mystérieux. Évidemment, on rit, on peut provoquer le rire, mais à certains moments, ça parle d'autre chose. Quand on va un peu plus loin, ça parle de l'inquiétude, de la solitude, la peur de la solitude, le besoin d'être reconnu par l'autre.
C'est ça qui est très beau, c'est que vous décrivez des lois physiques et vous parlez du corps, comme cette verticalité dont vous parlez. On est obsédé par la verticalité, par rester debout, par atteindre le sommet, par toujours être au-dessus des choses. Oui. Et puis petit à petit, ça raconte quelque chose sur cette injonction-là et sur le fait de pouvoir peut-être lâcher de temps en temps.
Complètement.
Et c'est vrai que la dignité, c'est très fort, c'est presque le thème du spectacle.
Je le montre, il ne rit pas. Quand je trébuche, il rit quand j'ajuste un tout petit peu ma veste et je regarde autour de moi. C'est là où il rit, quand je vérifie, est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que j'ai l'air stupide? Est-ce que j'ai l'air ridicule? Donc, on fait rire aussi quand, pour le personnage, il y a un enjeu, il y a quelque chose d'important. Et quand c'est un peu raté, un peu trop tard, c'est ça notre tragédie. On est intelligent, mais pas assez par moment. Ou on est un peu en retard, où je parle comme maintenant un peu trop longtemps. On est très sensible à ça. Donc, les occasions où tout cela est très important, les réceptions, les occasions formelles, où on serre les mains des gens, où on s'est bien habillé, on était chez le coiffeur, ça, c'est un terrain de c'est une mine d'or pour le comique. Si moi, je trébuche chez moi dans mes pantoufles, ce n'est pas drôle. Mais devant la reine d'Angleterre, juste avant que je vais serrer la main, de tomber sur elle, mais ça fera la une des journaux, voilà.
Et ça, est-ce que vous le sentez aussi, Michel Faux, cette importance du rythme pour la réaction du public qu'on peut rater ou réussir?
Oui, bien sûr. Là, avec Pinter, on est dans un théâtre ambigu où il y a de l'humour, mais en même temps, il y a des fois où la salle est un peu glacée parce que c'est terrifiant ce qu'on raconte. Donc, on est un peu sur un fil, en fait. Et puis, il y a des soirs où ça rit beaucoup plus, le rire prend le dessus. C'est un peu... c'est aussi là où c'est un peu moins difficile parce que quand on joue une pièce qui doit être très très drôle, comme quand j'avais joué une pièce de boulevard qui s'appelait Fleur de Cactus avec Catherine Fro, où là on devait faire rire et les gens venaient pour ça, là ça devient très 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 difficile. Il y a quelque chose d'un peu angoissant parce qu'on veut le rire à tout prix. Tandis que là on est un peu plus ambigu. Donc, mais parfois s'il suffit de césurer la phrase à tel endroit ou de c'est assez mathématique en fait le rire. Et je me souviens que j'avais joué une pièce de Sacha Guitry, comme c'est très écrit, quand je respirais au milieu de la phrase ça faisait pas rire, et quand je disais la phrase d'une traite ça faisait rire. Et alors là je ne sais même pas pourquoi, c'est totalement mathématique.
Et Roche Dizem, depuis, parce qu'il y a eu les répétitions, puis là ça a commencé il y a quelques jours, depuis l'arrivée justement du public et des réactions, qu'est-ce que ça a modifié pour vous dans le jeu? Est-ce qu'il y a des choses que vous...
D'abord, je trouve qu'on ne maîtrise pas le rire. En fait, ce n'est pas nous qui décidons. Michel expliquait très bien, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé de faire rire à des endroits, il y a des moments auxquels on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est une façon aussi d'interpréter. Et puis, à contrario, d'autres moments qui nous semblaient plutôt drôles où le public ne réagit pas. Après, chacun ne réagit pas de la même façon face au sarcasme. Effectivement, c'est très sarcastique quand même, Pinter, et il y en a que ça glace, ça veut pas dire que ça leur plaît pas, mais ça les glace, et puis il y a ceux qui rient, parfois c'est un rire jaune, un rire même un peu embarrassé.
Josou Ben, c'est quoi le sentiment quand on arrive à faire rire? quand le public rit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'on a réussi?
Mais de nouveau, je ne sais pas. Disons que pour moi, s'il rit ou s'il ne rit pas, ça reste intéressant. Je suis là comme un scientifique. Je jouais au théâtre de Bouffe du Nord et je raconte une anecdote que je produisais des programmes comiques pour enfants pour la télévision anglaise et on faisait des tests. Je cite quelques philosophes et un psychanalyste qui a dit il y a deux moments pendant lesquels l'être humain oublie sa mortalité. C'est pendant le rire et pendant l'orgasme. Mais je dis orgasme et rire pour avoir le rire parce que c'est le sujet. Ce soir-là, j'inverse par hasard, je me trompe. Donc, je dis le rire et pendant l'orgasme. Et je laisse cette salle dans un silence absolu, en train de connecter avec l'orgasme au lieu avec le rire. Je crispe un peu avec ce silence. Et un petit enfant devant moi, un garçon de 8 ans, je crois, avec des petites lunettes, qui m'a regardé avec grande attention sur un coussin au Bouffe du Nord. Et dans ce silence absolu, cette voix très très claire, et poser cette question très pertinente, c'est quoi? C'est quoi? Et la salle a explosé. Toute cette tension, c'est comme les murs vibrent. Je n'ai jamais obtenu un rire comme ça, si je le voulais. C'était le hasard, et c'était la vie, et c'était l'enfant, et c'était moi. Et après, j'ai dit, vous me demandez à la dame à côté de vous, elle va vous expliquer ce que je vous dis. Donc voilà. Et ça, c'était pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs de rire que je n'ai jamais entendu. C'était comme un fusée qui décollait, comme un moteur d'un réacteur qui, et je suis très content de ce rire-là parce que, comme le magicien, comme le hypnotiseur de scène, le comique, il est toujours quelque part manipulateur. Et si on manipule un peu trop, ça ne m'intéresse pas trop. Et quand on veut faire du sérieux et ça rate, on commence à rire. Et une autre petite anecdote, je vais voir un ami jouer à la Comédie Française, je croyais qu'il jouait Racine. Et à la fin, toute la compagnie monte solennellement vers le public, toute la rangée. Et je suis là parce que je suis le copain de l'acteur et je regarde, j'applaudis et le rideau tombe. Et il avait fait juste un pas un peu trop en avant et tout le rideau tombe sur sa tête. Il était là comme une espèce de Madone. Et très dignement, il fait un petit pas en arrière. Et en même temps, j'ai entendu toute une salle, au même moment, décider de ne pas rire. Parce que ça gâchait tout. C'était pas possible. Donc, c'était une milliseconde que 500 personnes ont fait et ils n'ont pas ri. Et ça, c'est une autre anecdote que ça me reste. L'autre, ça m'a complètement. J'ai appris sur le rire quelque chose. C'est quelque chose. S'il n'y a pas de complicité entre les gens et ceux sur scène, et que c'est un risque à prendre, ce n'est plus vivant.
Vous évoquiez les Bouffes du Nord. On va écouter la voix de Peter Brook avec qui vous avez travaillé, Jean Souben.
Tout ce que disent les sociologues qui sont complètement emprisonnés dans les détails d'une culture et qui croient que si dans une culture on embrasse avec la bouche, dans une autre culture on s'embrasse jamais avec la bouche, donc la communication ne se fait qu'à travers ces signes, c'est pas vrai du tout. Dans l'ensemble, même en faisant un voyage aussi loin de nos signes, qu'en Afrique, il y a très peu de surprises. Finalement, les gens répondent en général exactement de la même manière, c'est-à-dire humainement. On rit pour les mêmes raisons, on est touché pour les mêmes raisons, et le moment où il ne s'agit pas d'une recherche de forme, mais d'une recherche d'une certaine qualité, peu importe si la forme extérieure est la forme qu'ils connaissent ou pas, si tu entres les bras ouverts, avec une certaine chaleur, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une certaine ouverture humaine, d'une offre, et tout le monde répond. Et les effets comiques sont l'humour. C'est à peu près la même chose partout.
Ce spectacle, L'Art du Rire, Jean Souben, il a beaucoup voyagé dans différents pays. Est-ce que vous avez remarqué ça, ce commun qui fait que finalement ça voyage et ça existe presque de la même façon?
Oui, l'Art du Rire est devenu l'Art du Rire parce qu'il tournait beaucoup. Au début, j'ai fait des créations, comme je l'ai dit, en Angleterre. Je ne jouais pas moi-même là-dedans. Et avec le British Council et d'autres organismes, ça voyageait beaucoup. Et à cause de ça, il y a toujours un volet pédagogique. Donc, il faut faire des masterclass, il faut parler à l'université. Et eux, les comédiens, pas question de faire des stages. Donc, je suis parti avec eux à Dakar, à Kuala Lumpur, et bon, à Tel Aviv. Et bon, après, bon, c'est très comique, c'est très bien. Mais donc, je vais parler aux gens où je fais un stage pour les comédiens à Moscou et j'invente un truc qui est un peu pertinent dans les 2 heures que j'ai. Par rapport à ce qu'ils viennent de voir, ils ont des questions. Donc j'ai inventé une petite forme, des fois avec les comédiens ou avec les élèves de stage, sur le plateau pour dire, tiens, fondamentalement, quand j'enseigne ça, il s'agit de ça. Et quand on fait ce genre de truc, voilà. Donc il fallait trouver des choses que tous ces gens comprenaient tout de suite. Une espèce de
un langage commun.
Et... donc je gardais ça et un jour complètement par hasard, c'était en Hollande, quelqu'un m'est venu, un cinéaste, il m'a dit, regarde, vous savez que ce que vous racontez là, vous faites, ça peut intéresser n'importe qui, ça pourrait marcher pour un public, parce que c'était toujours des gens de théâtre, et j'ai retenu ça. Et beaucoup plus tard, j'ai reçu une carte blanche du théâtre de Samovar, c'est un théâtre qui est aussi une école de burlesque à Bagnolet. Il me donnait le plateau, une carte blanche, j'ai dit, tiens, je vais tenter pour un public. J'avais mes fiches, j'avais quelques thèmes. J'ai dit voilà, je pars de ça. Et j'avais
c'est comme
dans
ça
ma tête
qu'est
cette
né,
porte
l'art du
à
rire.
Ouvrir, pardon.
C'est comme ça qu'est né l'art du rire.
Oui. Et après, tout était réglé. Ce genre de truc, je l'ai fait dans la cour de pharmacie à Nevers. Je l'ai fait à la terrasse de l'ambassadeur belge à Dakar. Bon voilà. Je sais pas si ça dit plus sur le public que sur moi. Je ne cherchais pas à faire ça. Je l'ai fait.
On va retourner dans les grands espaces avec Pomme, qui est toujours en studio avec nous. C'est un deuxième extrait de son album qui s'appelle Les Failles, ça s'appelle Les Séquoias.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Oh, oh, oh. Le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la sève épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer. Oh, oh, oh. Et dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.
Roche Dizem, il y a quelques années, je crois que vous disiez, si un de mes enfants voulait devenir acteur, j'estimerais que j'ai échoué dans leur éducation. Vous avez changé d'avis ?
J'adore toujours ces interviews quand on extrait une phrase.
Il ne faut rien dire.
Je ne veux plus rien dire.
2010 dans Libération et paf, ça revient 9 ans plus tard.
Non, mais parce que, bon, on va en parler quand même, mais c'est vrai que c'était plus développé que ça. Hein, mais j'estimais que... ils avaient accès à des choses auxquelles je n'avais pas eu accès, et je pense qu'il y a des choses plus intéressantes que le métier d'acteur ou le métier d'artiste, tout aussi passionnantes. Mais évidemment que s'ils avaient voulu faire ça, je ne les en aurais pas empêchés. Mais ce n'est pas une petite entreprise, quoi. C'est pas, on ne reprend pas la boîte de papa, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, qu'il émane de vous une passion, une envie considérable. Et non pas une forme de facilité en se disant, ben voilà, entre guillemets, j'ai le réseau, j'ai les bons conseils peut-être, les tuyaux pour y accéder peut-être de façon un peu plus, en prenant des raccourcis. C'est ça que je voulais dire par là, mais vous savez, si j'avais décidé de faire ce métier beaucoup plus tôt, je pense que je me serais beaucoup plus orienté vers la technique, par exemple, la lumière ou la mise en scène. Ma présence aujourd'hui dans le cinéma et dans le théâtre est au départ le fruit du hasard. Donc, ce qui est une chance. Mais cette chance-là, voilà, elle n'est pas donnée à tout le monde et encore moins à mes enfants.
Autrefois, quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie.
On a commencé par l'art de faire rire pour écouter les failles des êtres humains et leur façon d'essayer de rester digne et droit et debout. On finit avec la voix de Michel Faux qui reprend Brassens. Joss Houben, l'art du rire, c'est à la Scala du 5 au 22 février. Pomme, l'album s'appelle Les Failles, elle est en tournée partout en France, en Belgique. Trahison de Pinter, mise en scène par Michel Faux, c'est donc au Théâtre de la Madeleine à Paris. Et puis un peu plus tard, Michel Faux mettra en scène Georges Dandin ou Le Mari Confondu au Bouffe du Nord. Ce sera du 19 juin au samedi 12 juillet 2020. Je dis merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir. Merci à Cédric Chatelus et Valentin Azan-Zielinski. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.
D'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais dit permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon nom, je m'adis turlututu, chanter l'amour t'est défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.